Il est 19h passé de quelques 3 minutes. Merci d'être des nôtres. Excellente soirée à vous. Et bienvenue sur l'une de nos fréquences 103.4, 106.8 ou mieux encore, les www.rbrfm.com. On retrouve après une petite pause, justement, signée Carnaval, notre émission, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 21h, avec bien sûr une invitée en cette belle soirée qui va nous emmener où que vous soyez dans le monde, si vous êtes sur le net, merci d'être des nôtres. Vous connaissez déjà notre formule. La formule veut qu'on accueille un ou une invitée, cela va de soi, et l'obliger à aller chercher un peu, remonter dans sa mémoire et de trouver, je dirais, quelques souvenirs bel et bien lointains. Pour ceux qui la connaissent, vous allez certainement reconnaître sa voix, et puis pour d'autres, vous allez ensemble apprendre à la connaître. On dit d'elle qu'elle était petite, elle était joyeuse et créative, et apparemment voulait tout faire. Certaines personnes disent d'elle qu'elle est dotée d'une écoute extraordinaire. Elle est chaleureuse, ça je peux vous le confirmer, attentive et bienveillante. Patiente, dit-on, curieuse, l'esprit ouvert, respectueuse, elle possède un sens de l'observation qui est inné. Je pense qu'elle va nous apprendre à débarbariser des termes comme EMDR, par exemple, PNL, ou mieux encore, un peu d'hypnose. Nous parler ce soir de communication non violente. Et avec elle, je vous assure que le mot renaissance va retrouver, bien sûr, sa raison d'être. Nous sommes heureux de l'accueillir et une fois n'est pas coutume, on va la laisser se présenter. Bonsoir.
Bonsoir.
Marie-France. Bonsoir, merci d'être des nôtres.
Merci de m'avoir invité. Merci.
Donc, j'ai envie de dire, d'après les quelques notes que tu as entendues, qu'est-ce qui correspond un peu à ta personnalité?
Je suis plutôt joyeuse.
Oui.
Plutôt ouverte. Créative, oui, je le suis et c'est vrai que j'ai mis en place des choses que j'ai moi-même compilées,
oui.
Fait que j'ai créé ma propre méthode et voilà, je pense que oui, les mots que j'ai entendus étaient vraiment pour moi alignés.
Alors on a un exercice, je dirais parfois assez barbare, qui est de permettre à notre invité d'aller chercher, je dirais, dans sa mémoire un peu plus lointaine, ce qui te paraîtrait ton plus ancien souvenir de ta vie actuelle.
Oui.
Ce serait lequel?
Alors, je me souviens, j'ai dû un petit peu cogiter. Je pense que je devais avoir 4 ans.
Oui.
4 ans. Moi, je suis née à Paris et j'ai vécu à Paris avec mes parents et notamment dans une banlieue qui s'appelle Thiès, en métropole. Et je me souviens à l'époque, parce que j'aimais danser, j'aime toujours danser, et je me suis retrouvée avec des petites copines. Nous étions pas très grandes, mais on était fans de, je rigole, mais de Claude François.
Oui.
Et nous faisions des Claudettes. Et comme on n'avait pas, ça n'existait pas les Walkman, ce genre de choses à l'époque, donc on chantait en même temps. Donc on avait une petite troupe de plusieurs petits bambins qui dansaient ensemble et on faisait une sorte de chorégraphie, voilà. Donc je me souviens de ce moment-là où c'était un moment vraiment joyeux, amusant et voilà, qui faisait partie de mes souvenirs les plus anciens.
D'origine belle et bien martiniquaise, il faut le dire.
Oui,
hein.
Clairement.
Donc, parlons un peu de tes parents.
Oui. Alors mes parents sont antillais tous les deux, nés pour mon père à Fort-de-France, enfin du côté de Tivoli-Poscolon, pour ma mère Grand-Rivière. Donc ils sont partis très jeunes, à peu près à l'âge de 30 ans en métropole. Donc ils avaient déjà 2 enfants, mon frère aîné François et mon deuxième frère Franck. Et eux sont partis, comme l'a permis à l'époque le Bibidom,
ouais.
Ce Buimidom, j'arrive même plus à dire le nom, chercher à se développer, vivre. Voilà, il y avait un pont qui était fait pour leur permettre de faire ça. Et donc ma mère est entrée dans les hôpitaux donc à Paris. Pitié Salpêtrière pour ceux qui connaissent. Mon père, lui, est devenu chef de chantier. Et moi, je suis arrivée après, donc après mon frère. Donc j'ai eu un troisième frère, Christophe. Et moi, je fus la dernière à naître donc à Paris, à la Salpêtrière, où elle travaillait.
Tu peux nous parler un peu de la période préscolaire, si tu t'en souviens?
Waouh, la période préscolaire. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur la période préscolaire? Avant l'école, donc,
ouais.
J'étais... Alors, j'ai une image, c'est marrant parce que c'est vraiment Thiers. Sept ans. Pourtant, on a vécu à Paris, à Thiers et après à Villeneuve-le-Roi. Je me vois, on avait un champ derrière l'immeuble parce que ma mère étant fonctionnaire, elle était logée. Donc on et c'est marrant parce que je vois cette plaine, ce champ où tous les enfants descendaient quand il faisait beau et on courait, on se faisait piquer par les abeilles, enfin.
Forcément, en été, oui.
Donc et je vois ce moment où on jouait ensemble. Donc j'étais plutôt en groupe avec des jeunes, des petits de mon âge. C'était plutôt mon frère qui nous gardait dans ces moments-là. Et on descendait, on prenait l'air en bas de cet immeuble où on jouait. Voilà, c'est un souvenir que j'ai.
Et puis à un moment donné, il fallait se scolariser.
Oui.
Tu t'en souviens un peu, là, des premières rentrées?
Alors, de ce côté-là, oui. Alors, première rentrée primaire à Thiers.
Oui.
Enfin, première rentrée maternelle. Alors, j'ai plus trop le souvenir de la maternelle.
Ouais.
Mais si tu vas un peu vers la primaire,
oui.
Ou la petite, vraiment l'âge le plus proche de la petite école, je me souviens que j'allais dans l'école à Thiers. J'étais un peu forte.
Ouais.
J'étais dans le sens un peu combative, on va dire. Plutôt bonne élève dans le sens où j'étais docile. J'étais une gentille fille, j'étais vraiment sur le rail, comme je dis à chaque fois. Par contre, je me souviens d'une chose, c'est qu'en sortant de l'école, alors je sais pas pourquoi, c'est vraiment une image, le long de l'école, il y avait une dame qui vendait des pommes de terre.
Ouais.
Elle avait son petit pavillon et une petite descente. Et un jour, j'avais pris l'initiative de commander des paquets de pommes de terre pour mes parents. Et je sais pas pourquoi, elle avait appelé mes parents pour leur... Et c'était pas vrai.
Ouais.
J'ai pris cette initiative de commander des paquets de pommes de terre. Bon, ils ont dû appeler mes parents pour vérifier et ils m'avaient jamais demandé de le faire. C'était une initiative un peu malheureuse.
Ah ouais?
Ouais.
Et pourquoi?
Je sais pas. J'avais envie de faire des choses, mais et je me suis lancée sur des petits trucs comme ça, parler aux gens. Pourtant, j'étais pas épaisse, j'étais pas grande. Mais in fine, je pense que je testais des choses de la vie. Je commençais à tester.
Qu'est-ce qui faisait? Bon, là, ça va peut-être faire rigoler. Qu'est-ce qui faisait la différence quand tu étais en classe par rapport aux autres élèves? La couleur déjà?
Certainement. Alors là, c'est clair. Ah, là, c'est clair.
Oui.
Là, c'est clair. La couleur, les cheveux.
Mm-hmm.
Je me souviens, ma mère faisait des nattes et mes nattes, elles tenaient debout sur ma tête.
Ouais.
Donc j'avais des nattes. Je me sentais pas décalée pour autant. J'avais quand même une présence. Je me souviens, des fois, je m'engueulais avec d'autres copines. Hein. Tu sais, il y a toujours les petites engueulades entre copines. On n'est pas contente, on joue. Alors à la marelle, je me souviens de ça avec des boîtes de bonbons qu'on jetait par terre. Là, je me sentais pas décalée du tout. J'avais plutôt un côté un peu autoritaire, j'avoue, déjà petite.
Quelles étaient les directives justement de maman pour cette première partie de la scolarité?
J'en avais pas vraiment. J'avais pas vraiment de directive.
Ouais.
C'était un peu, ça se déroulait comme la vie devait se dérouler. Je pense que j'avais pas de mémoire, hein, c'est ma mémoire, j'avais pas vraiment de directive. Donc, écoute, j'étais une petite fille qui suivait un peu les choses telles qu'elles se présentaient et qui essayait de passer les étapes au fur et à mesure de leur présentation à moi.
Hein. C'était quoi ses rêves à l'époque?
Moi, j'aimais bien chanter.
Ouais. Tu te voyais bien chanteuse plus tard, c'était ça. Ouais.
Franchement, oui.
Oui.
Et c'était un rêve qui... j'aimais chanter, j'aimais danser. D'ailleurs, je faisais partie... Tu sais, quand t'es petite, t'as toujours des cours de danse, des choses comme ça, même à l'école. Mais j'adorais danser, j'adorais chanter.
D'une manière générale, comment se passe, je dirais, l'ensemble de la première? Ça se passe comment? Bien?
Plutôt bien. Après, nous avons déménagé. Donc, nous avons atterri dans une ville qui s'appelle Villeneuve-le-Roi. Et même chose, plutôt intégré, avec des profs un peu sévères. J'ai essayé. Alors,
quand on parle de profs sévères, cela se manifestait comment?
Oh là 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 là. Moi, je me souviens d'une dame. Maintenant, je peux lâcher son nom.
Oui.
Mademoiselle Bru.
Il y a prescription.
Alors, Mademoiselle Bru. Je me souviens d'elle parce que elle passait, elle te tirait les cheveux.
Ouais.
Donc, c'était une méthode un peu d'avant. Oui. elle tirait les cheveux. C'était une prof de sport en plus. Elle faisait maths et sport. Donc elle avait tendance, quand tu ne répondais pas bien à ses questions, à tirer un peu les cheveux.
Ouais.
Bon, tu sais, avant les profs avaient la main légère des fois. Hein. C'est des claques. Maintenant ça se ferait plus. Je pense que les gamins ils se laissent plus faire. Mais à l'époque, ma génération, je pense qu'on était encore dociles, clairement.
À l'époque, est-ce que tu t'es des natures à appréhender tu sais, les grands changements? Parce que quand on sort de l'école primaire, il y a la sixième qui vient.
Oui.
C'est une autre scolarité, c'est plus de professeurs. Est-ce que tu appréhendais justement cette transition primaire, collège? Et comment se sont passées les choses?
Alors, j'appréhendais, mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est que la primaire, quand j'ai quitté la primaire pour passer en sixième, le collège... la primaire était juste à côté du collège et en fait tous les amis sont passés en même temps.
Ouais.
Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée encore avec mes amis, copains, copines, à l'école. Donc du coup, c'était un peu moins violent que quand tu te retrouves seule. Et ce qui était compliqué après, c'est effectivement trouver ton organisation, changer de cours, changer de classe, trouver ton rythme. Mais franchement, j'ai pas un mauvais souvenir de toute cette période scolaire. J'étais plutôt attentive. Je me mettais devant.
Oui. De toute façon, pourquoi? Pour quelle raison?
Je sais pas, peut-être que je voulais être vue.
Oui.
Comme beaucoup. C'est vrai que j'avais tendance à me mettre devant.
Parce qu'habituellement, on entend beaucoup, on se met plutôt au milieu ou bien en arrière.
Mais moi, j'étais devant.
Oui.
Déjà, tu vois, ça montrait un peu, je voulais être vue.
Oui.
Je levais souvent la main. D'ailleurs, souvent, les profs disaient, non, pas,
ouais, pas toi.
Pas toi.
Pas toi, ouais.
Alors, ça te frustre.
Oui.
Pour le coup, c'est vrai que j'avais tendance à lever la main souvent. J'avais des réponses, je voulais les donner. J'apprenais mes leçons. J'étais pas l'élève la plus, voilà, mais.
Tu étais dans la moyenne?
Ouais, j'étais dans la bonne moyenne. Bonne moyenne.
On envisage souvent, quand on est jeune, à part le fait que tu avais peut-être envie d'être chanteuse, on arrive, on laisse le primaire, on arrive au collège,
oui.
Ben, les choses commencent à bouger, le corps commence à se former, mais ben, les parents sont là derrière. Alors, est-ce que maman aussi donne des directives par rapport à tous ces changements?
En fait, ce qui se passe avec mes parents, c'est qu'ils n'ont pas fait d'études, donc c'était compliqué.
Ouais.
Tu vois, mon père ne sait pas lire, ne sait pas écrire.
Oui.
Donc, et ma maman, elle savait, mais bon, pour le coup, elle n'avait pas fait d'études. Ce qui veut dire qu'il y a un moment donné où il y a eu... mes parents, par rapport à leur suivi, il y avait un décrochage.
Oui.
Je me suivais moi-même. Tu vois.
Mm-hmm.
Donc, arrivé au lycée, c'était autre chose, c'était un autre cap. C'était un cap qui me permettait, moi, de commencer à me demander ce que je voulais faire de ma vie. Alors, chanteuse, je crois que je l'avais mis de côté, définitivement.
Oui, forcément, oui.
Voilà. Et pour le coup, je me suis cherchée à un moment donné, tout en étant, en essayant de rester dans la bonne moyenne, en travaillant. Je travaillais, voilà, je révisais, je séchais pas. Je n'étais pas du genre à sécher les cours. C'était pas, j'y pensais même pas en
moi. Oui.
J'avais pas pensé à sécher un cours. Pour le coup, j'essayais j'avais une sorte de perspective dans ma tête. Il faut que je réussisse mes études. Il faut que je réussisse mes études. J'avoue que je ne savais pas encore quoi faire, mais je m'orientais. Je n'étais pas une très bonne matheuse. Donc les filières scientifiques n'étaient pas tout à fait pour moi. J'ai plutôt choisi une filière où j'étais plus en lien avec l'économie, ce genre de choses.
Voilà, moi ce que je te propose, Marie-France, c'est de faire une petite pause.
Oui.
Et puis on se retrouve juste après, histoire de nous dire un peu comment tu occupais ce qu'on appelle chez nous les grandes vacances, chez toi de l'autre côté l'été. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Vous êtes dans votre émission Entre nous, vous êtes sur RBR. On fait une pause pub.
Tous les deuxième et quatrième lundi de chaque mois sur RBR, retrouvez votre émission Entre nous de 19h à 21h. Venez partager avec nous l'intimité d'une personnalité avec Jean-Étienne en toute complicité sur les 103.4, 106.8 et au www.rbrfm.com.
À 19h passé de 24 minutes, notre invité du soir, c'est Marie-France Sofa. Marie-France, on disait tout à l'heure que on aimerait savoir. Chez nous, nous parlons de grandes vacances. Chez
oui.
toi, à l'été, on occupe comment son temps quand
alors,
on est comme ça au lycée?
Alors, quand on est au lycée, alors les grandes vacances, il faut savoir que ma mère était fonctionnaire, donc, puisqu'elle travaillait dans les hôpitaux. Et tous les. Alors, au départ, c'était tous les 10 ans, puis c'est devenu après, je crois, tous les 5 ans, donc elle avait droit au billet dit bonifié. Donc, nous allions une fois, en tout cas pour moi, avec mes parents, au départ tous les 10 ans et après tous les 5 ans, nous venions aux Antilles. Ça, c'est pour dire que je venais dans la famille, donc chez ma grand-mère, chez mes oncles, on tournait un petit peu dans la famille. Et quand ce n'était pas les Antilles, j'avoue que c'était plutôt la maison. Puisque pareil, après, c'est une question de moyens de pouvoir partir tout le temps en vacances. Et mes parents n'avaient pas vraiment les moyens. Ce qui fait que la plupart du temps, donc j'avais mes amis, et notamment une de mes amies qui s'appelle Patricia, qui est mon amie d'enfance, où on allait jouer au tennis, on s'occupait quand je pouvais sortir, parce qu'il y avait aussi ça, puisque, comme je l'explique, je suis sortie très tard. Donc, il fallait que je demande l'autorisation pour pouvoir sortir avec mon ami, ou oui, mais en tout cas jusqu'à un certain âge, pour aller jouer au tennis, voilà, sortir un petit peu de la maison. C'était strict quand même.
Oui. Trop, à ton avis?
Oui.
Ton premier contact, ton premier souvenir qui est lié à Lille, avec ta première venue ici, c'est quoi?
J'avais ma première venue, je crois c'est 12 ou 14 ans. Donc ça s'est fait sur le tard.
Ouais.
Je ne suis pas venue très jeune. Je me souviens, j'avais une salopette bleue. J'avais une salopette bleue.
Vive les vacances.
Oui, j'étais bien habillée.
Oui.
On m'avait préparée à venir. Et ah oui, là, c'était une grande découverte. Hein, j'avoue, c'était une grande découverte. Et j'étais. Donc je suis allée. On est parti, on est arrivé à Fort-de-France. Et on est monté tout de suite à Grand-Rivière. C'était un sacré voyage, en tout cas pour moi. Et comme j'ai le mal du transport, j'étais un peu chahutée, je me souviens de ça aussi. Et on avait un repas de famille le soir. Donc c'était la première immersion dans ma famille à Grand-Rivière à l'arrivée.
Alors, le collège s'est terminé, on est au lycée, oui. C'est pratiquement terminé.
Oui.
On prend le bac.
On prend le bac.
Et puis après, on se dit que bon, ben, il faut faire quoi?
Ah ben après, on se dit... alors, je voulais faire de la pub.
Explique-nous sur la
voiture. J'avais plusieurs sujets en fait. J'aimais bien la publicité. Donc, je me suis dit pourquoi pas la pub. J'aimais bien aussi, l'économie, le droit. Donc j'avais plusieurs champs d'investigation. Mais le problème c'est que quand on choisit une orientation, on ne peut pas en choisir cinq. Donc j'ai choisi, on revient toujours au côté sérieux, donc j'ai choisi le côté économique droit.
Ça te correspondait plus à ta personnalité ou bien un besoin du moment?
Je pense que c'était plus... Alors j'aimais beaucoup, mais pour autant c'était aussi peut-être entrer dans quelque chose qui sécurise un peu. Si on te pousse un peu... Alors mes parents, en tout cas mon père racontait à tout le monde que j'allais devenir douanière. Hein. Moi j'entendais des trucs des fois, je disais mais c'est de moi dont on parle. J'ai vécu des choses.
Oui.
Et donc, non, je ne souhaitais pas devenir douanière. Je ne suis pas devenue douanière. Oui. Je n'ai rien contre les douaniers, au contraire. Mais en fait, j'avais d'autres rêves. Et je suis passée, effectivement, à un moment donné, j'ai recentré mes choix sur quelque chose d'un peu plus classique. Donc, j'ai fait une fac administration économique et sociale des entreprises. Et j'ai eu une maîtrise administration économique et sociale des entreprises.
Et puis, quand on a tout ça, on va travailler ou bien qu'est-ce qu'on fait avec ceci et cela?
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? La question, c'est, pour le coup, la pub est revenue. Elle m'a rattrapée à un moment donné, parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, alors mes parents, à ce moment-là, c'est marrant parce que c'était vraiment charnière comme date, à la fin de mes études, mes parents sont repartis. Donc, ils ont fait le choix de rentrer aux
Antilles. Oui.
Donc, je me suis retrouvée, moi, seule, en métropole. Ce qui fait que j'ai commencé à travailler, j'avais pas trop le choix. Et au départ, je me suis faite embaucher par une agence de pub. J'ai quand même été regarder la pub, hein, ça ne me quittait pas. Donc Young et Rubicam, pour ceux qui connaissent cette agence de pub, qui est une agence de pub américaine. Et j'ai travaillé pour eux un peu moins d'un an, et je n'ai pas du tout aimé.
comment tu as vécu le fait que les parents reviennent chez eux?
Complètement. J'avoue, vous êtes dans une structure familiale où... En plus, moi, il y avait. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu, pendant cette période, j'ai perdu mon frère, qui était mon frère quasi jumeau, parce qu'on n'avait même pas un an d'écart, on était dans la même classe en primaire.
Ouais.
Donc, il est décédé. Et donc, quand mes parents sont repartis, je me suis retrouvée seule. Donc, à un moment donné, tu te prends en charge. Hein. Encore une fois, tu vois ce que je disais quand on se parlait, c'est t'es obligé de te mettre en ordre de marche pour te dire, t'es seul, ils sont partis, tu vas bosser, quoi. Ouais. Tu vas te prendre en charge. C'est un peu la femme forte, l'image de la femme forte. Donc j'ai mis un peu mes émotions, encore une fois, sous la table, hein, en mode, tu peux pas... tu peux pas te laisser aller, donc tu vas prendre les bonnes décisions. Donc il y a une partie de moi qui s'est mise en ordre de marche pour faire que les choses se passent bien. Donc j'étais dans cette agence de pub, j'ai été recrutée. À ma grande surprise, j'ai tenté, en me disant mais ils me prendront jamais, ils m'ont prise. En plus j'ai eu l'occasion en étant recrutée, d'organiser des salons, de recruter des hôtesses. On m'avait quand même déjà donné un petit poste sympa. Et puis, je n'aimais pas l'ambiance et je n'aimais pas l'état d'esprit dans ces...
C'était quoi l'ambiance et l'état d'esprit, finalement, si tu peux partager?
Alors, je vais vous raconter le truc. Je vais lâcher.
Oui, on dit la pour ça. Ouais. Juste entre nous. Hein.
Oui, c'est entre nous, voilà. Je ne sais pas combien. Vous êtes un grand entre nous, mais bon, ce n'est pas grave.
Nous sommes juste comme ça. Voilà. Nous avons un petit cercle très fermé.
Alors, quand j'allais dans l'agence, moi, on me donnait des missions, évidemment. Et j'étais rattachée à une chef chargée de budget. Et je revenais bosser le week-end, le samedi. J'avais des choses à faire. Et en fait, je voyais tout le monde revenir et fouiller dans les placards parce qu'ils se volaient les idées.
Ah ouais.
Ah, j'étais là en mode spectatrice, mais c'est comme si on ne le voyait pas.
Oui.
J'ai envie de leur dire oh, je suis là. Tout le monde passait et on voyait, ils allaient dans les tiroirs.
Qu'est-ce qui faisait que tu t'es devenu invisible par rapport à tout ce beau monde?
Ah c'est parce que moi déjà je me mettais déjà un petit peu en arrière.
Ouais.
Quand j'ai commencé à voir ce genre d'état d'esprit, c'est pas le mien.
Ouais.
Donc je commençais à me dire qu'est-ce que c'est que ce milieu? Et en fait, il y avait beaucoup de faux selfs.
Ouais.
Beaucoup de gens qui étaient un peu pas forcément dans la sincérité. Donc déjà ça me posait problème. En fait, je cherchais un métier où je me sentirais bien. Et là, j'ai donc quitté.
Donc quand on part
Je choisis la banque.
Ouais.
La banque finance. Donc puisque c'était un peu l'orientation que je recherchais, enfin j'avais deux voies, pub ou... Alors, me demandez pas pourquoi la pub ou la banque, hein, ça n'a rien à voir, mais bon c'est comme ça. Et effectivement j'ai été recrutée et en rentrant dans la banque, j'ai commencé à être en lien avec la clientèle, à commencer à recevoir des clients, à pouvoir passer avoir des échanges dans une forme de... Moi, j'étais honnête et je pense que le métier de la banque, souvent, on vous dit, non, on peut être banquier honnête et banquier dans le cœur.
Oui.
Donc, c'était vraiment l'accompagnement des clients pour réaliser leurs projets, pour faire leur épargne, pour faire préparer les études de leurs enfants. Donc, c'était vraiment une mission pour moi de le faire.
Quelle impact avait sur toi, maintenant avec un peu de recul, je pense que tu peux quand même mesurer ça, de cette relation avec la clientèle?
Ah, j'adorais.
Ouais.
Ah, mais moi j'étais. Ah, là c'était une révélation. C'était vraiment une révélation parce qu'en fait j'ai appris à être dans le commercial tout en étant dans l'échange et dans le cœur avec les clients, vraiment. Donc j'ai très vite vu que j'avais des dispositions.
On rentre aussi dans une partie de leur intimité quand ils viennent avec leur projet.
Oui, ouais. Ah oui. C'est un peu comme ce que je fais aujourd'hui. Les personnes te parlent, ils te confient leurs problématiques, leur vie. En fait, banquier, t'es déjà un petit peu quelqu'un qui écoute les problèmes et qui.
Donc, avec du recul, on voit
oui,
que.
Il y avait déjà quelque chose.
Qu'on s'avance tout doucement et sûrement.
Exactement. Oui. Exactement. Oui. Et déjà très tôt dans ma vie, j'avais cette observation, d'ailleurs, des personnes autour de moi, même jeune, j'étais déjà très observatrice. Et effectivement, le fait de rentrer dans ce milieu-là, alors j'ai commencé en tant qu'agent commercial et j'ai monté les échelons. Et j'ai fait vraiment le chemin de tous les postes intermédiaires jusqu'au poste de directeur d'agence. J'étais directeur d'agence, directrice d'agence. J'étais formatrice, j'étais coach. Et après, la direction m'a appelée pour prendre des postes d'animation du réseau d'Île-de-France, de toutes les agences. Donc j'ai commencé à côtoyer la direction.
Et quand Marie-France ne travaille pas dans la banque, comment elle occupe son temps?
Comment elle occupait son temps? Elle occupe son temps, elle danse, oui. Elle voit des amis, elle lit beaucoup. Ça ne m'a pas quitté. Ça, moi, quand je découvre des livres, c'est une vraie joie.
C'était les centres d'intérêt, justement, de tes lectures, c'était...
Alors, les centres... Beaucoup de développement personnel, la psychologie, la politique, l'économie. Alors la politique dans le sens comprendre l'impact de la politique par sur la, enfin tout ce qui est mis en œuvre, tout ce qui n'est pas mis en œuvre, et comprendre ce qui se passe. Hein, quand on voit un peu le côté politique, enfin du moins le monde politique, c'est intéressant d'aller regarder un peu, de comprendre en fait ce qui s'y déroule. Après, c'est ma vérité, c'est simplement la mienne, mais j'ai compris beaucoup de choses. Et du coup, ça m'a amené à faire des choix, à comprendre, en essayant d'être le plus, encore une fois, sincère possible.
La banque ne va pas arrêter.
Non.
La banque ne va pas occuper tout ton temps.
Non.
Et après la banque, forcément, tu feras d'autres choix.
Oui. J'ai fait pas mal, en fait, on m'a confié pas mal de missions dans cet établissement bancaire où j'ai mis en place pas mal. On m'a confié des vrais projets parce qu'à un moment donné, j'avais une solidité. Alors, une solidité, mais je la tenais parce que il a fallu devenir solide à un moment donné par rapport au choc que j'ai eu, mais bon, comme beaucoup d'entre nous. Et à un moment donné, par rapport à ce point-là, j'ai commencé. Alors, plus je me suis rapprochée de la direction, pour travailler avec eux, plus j'ai vu des choses qui me rappelaient un peu la pub.
La pub, ok. Ouais.
Je voyais, enfin, c'était vraiment un monde intéressant. On m'a montré beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Mais humainement, il y a des petites choses qui me dérangeaient. Qui me dérangeaient même beaucoup.
L'expérience bancaire a duré combien de temps?
Oula, elle a duré. Alors, j'étais maligne en fait.
Oui.
Parce que.
Tu te préparais à autre chose.
Et dans la banque,
oui.
J'ai bougé régulièrement de fonction,
ouais.
Tous les 3 ans. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'expérience dans le même établissement et j'ai changé et je m'orientais au fur et à mesure vers une voie que j'allais développer après, effectivement, puisque j'ai atterri à un moment donné à la transformation et à la conduite du changement.
Ouais.
Qui me mettait vraiment sur la voie. Je me rapprochais de plus en plus de ce que j'aimais faire, puisque le chemin se balisait au fur et à mesure.
Et puis un beau jour, je suppose qu'il va se produire forcément un déclic.
Oui.
Il va faire que tu vas laisser la banque, tu vas t'orienter vers autre chose. Ouais. Ce déclic, c'est lequel?
Alors, ce déclic, c'est encore une conduite du changement. Et une conduite de changement qui, pour moi, n'était pas... Enfin, je voyais... Moi, j'avais une équipe. Hein, j'avais à chaque fois des équipes. Et la façon dont la énième, et c'est comme ça, hein, conduite du changement, c'est organiser, a perturbé vraiment mon équipe. Pourquoi? Parce que quand on conduit le changement, et d'ailleurs, je conduisais le changement, mais là, pour le coup, on me faisait le changer.
Oui.
Moi et mes équipes, c'est pas le fait de changer, c'est comment on doit anticiper le changement pour faire que les gens qui doivent changer... change avec des conditions qui leur soient, je ne vais pas dire agréables, parce que changement, c'est voilà, il est en soi, on doit changer. Pour le coup, c'était fait un peu... Voilà,
n'importe comment.
N'importe comment, oui.
Peut-être toujours pour l'intérêt d'un petit nombre.
Oui.
Ouais.
Oui. Oui, puis quand on vous dit... Enfin, c'est là où j'ai compris la notion de ressources humaines. Il y a le mot humain, mais il y a surtout le mot ressources. Et à partir de là, j'ai vraiment compris que... En fonction des décisions qui sont prises, on se sert des ressources. Mais derrière les ressources, pour moi, il y a toujours un humain.
Ouais.
Et là, j'ai commencé à être un peu à grincer un peu.
C'était pas équilibré,
non.
Hein. Ouais.
Non. Ah non, beaucoup de souffrance. Moi, j'ai dû préparer mes équipes à entrer dans une forme de souffrance. Et donc, cette souffrance-là, je les ai accompagnées, mais elle m'a impactée aussi. En plus, je suis une hypersensible, donc j'ai été impactée. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, là, alors, c'est vrai que je commençais à me poser la question sur la suite. Est-ce que j'étais encore alignée?
La question, c'est que je sais que tu as un fils.
Oui.
Mais à quel moment il apparaît dans ta vie?
Alors, j'en ai même 2.
Ah oui. Ah oui, oui.
Alors, mes enfants apparaissent. J'avais 26 ans.
Oui.
Pour le premier, qui s'appelle Guillaume. Et le deuxième, Maxence, est arrivé 3 ans après.
Mm-hmm.
Donc, 2 garçons.
Parle-nous un peu de Guillaume.
Guillaume, mon aîné, donc c'est un scientifique. C'est un scientifique, Guillaume, c'est un... Alors au départ, quand il était plus jeune, il était rêveur, il rêvait beaucoup.
Il rêvait de quoi?
Guillaume, il a toujours regardé un peu la lune, il a toujours beaucoup d'imagination, dessinait vraiment extrêmement bien, vraiment extrêmement bien. Il faisait des mangas, enfin il a toujours été attiré par le dessin. Et en fait, il est devenu doctorant en sciences, en scission de la matière.
Maxence,
alors ça c'est Guillaume, donc oui. Maxence qui est mon fils,
oui.
Qui est avec moi, un garçon, alors Max, lui, sa particularité c'est d'être proche de l'humain et d'avoir très tôt une pensée analytique de l'humain. À soulever des problématiques, des analyses, quasiment un adulte dans un corps d'enfant.
Et je suppose que forcément ça a une répercussion sur maman.
Oui. Clairement. Ah oui. Mes deux enfants, mais c'est vrai que Maxence, on a eu aussi des discussions et ça m'a. Il a soulevé des sujets que je ne voyais pas. Vous savez, quand à un moment donné vous êtes construit d'une certaine façon, parce que vous avez une vie, vous avez des parents, vous avez du transgénérationnel.
On a un héritage.
Des fois vous portez quelque chose, mais vous vous en rendez même plus compte. Hein, et vous transmettez quelque chose. Donc quand vos enfants, on vous dit, y a une phrase qui dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et je pense que mon maître est apparu. Clairement, il est apparu.
Alors, la question, elle va être posée de deux manières. Selon toi, quelle maman es-tu ?
Waouh, drôle de question, oui. Mais question importante.
Oui.
Je suis une maman, je pense qu'il y a eu maman d'avant, maman d'après.
Alors la maman d'avant, c'est... pourquoi la maman d'avant ?
Alors la maman d'avant, elle avait des peurs.
Ouais.
Donc elle était pétrie de peur.
Pour elle,
pour ses enfants, pour elle, oui. Pour tout le monde, pour ses parents, pour tout le monde.
Ouais.
Cette peur, elle était vraiment en moi, ce qui fait que j'étais une maman hyper contrôlante. Contrôlante dans le sens, quand on bouge pas, je me sens mieux.
Oui.
Et ça me rassure.
Et quand on bouge,
faut que ça bouge, mais ça ne me fasse pas trop bouger. Oui. Ça ne me mette pas en risque. Donc oui, j'étais une maman contrôlante.
Et la maman de maintenant, la maman d'après ?
J'ai lâché prise.
Oui.
De toute façon, on m'a fait lâcher prise, ça c'est clair. Une rencontre d'un homme plus mes enfants, mm-hmm. Ça m'a fait lâcher prise vraiment.
Et puis, l'autre version de la question, parce qu'il y a toujours la personne que l'on est.
Oui.
Et puis, il y a la manière dont on est vu par les autres.
Oui.
Comment les autres voient la maman que tu es ? Parce que forcément, on va te dire des choses qui ne sont peut-être pas en adéquation avec la réalité.
C'est clair. Les autres me voient... Comment les autres me voient ? Bonne question. Donc, amis et gens de l'extérieur, en fait.
Oui.
Moi, j'ai expliqué à tout mon entourage mon cheminement. J'ai expliqué qui j'étais avant, j'ai expliqué qui je suis devenue. En expliquant que j'ai fait des erreurs, j'ai pas forcément été une maman alignée. On pense être une maman alignée, mais en fait on ne l'est pas, parce qu'on voit au travers de nos enfants et du comportement de nos enfants forcément que c'était pas adéquat en adéquation. Donc les gens me voient comme une maman qui a essayé d'évoluer.
Oui.
Donc ils ont au moins ce côté empathique, parce que j'ai fait comme tout le monde, j'essaie d'être la maman la plus sincère possible. J'ai acheté des livres, pourtant j'ai acheté plein de livres.
Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça.
Il
n'y
a pas de mode d'emploi. Ouais. Et toutes les mamans font des erreurs.
Oui.
C'est pour ça que je dis quelque part, on a... Alors du coup, comme les gens sont empathiques, comprennent, eux-mêmes vivent des expériences avec leurs propres enfants, ce qui fait qu'ils ne sont pas trop durs, parce qu'ils comprennent aussi...
Quand on échange, là, on comprend,
oui. Et la transparence fait qu'à un moment donné, j'ai jamais dit que j'étais la meilleure maman du monde. J'ai même dit à mes enfants, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, j'essaie de redresser mon comportement au regard de ce que j'en ai compris. Et puisque j'étais assez sensible aux impacts que j'avais, j'ai essayé de redresser les choses.
Maintenant que tu nous as amené quelques lumières sur la maman que tu es, celle que tu es devenue et celle que tu étais, on va revenir du côté de la banque. Pour ça, à un moment donné, il va falloir laisser la banque.
Oui.
Comment se passe cette séparation avec les affaires financières ?
Waouh ! Alors si je te dis que... Alors moi j'accompagne à la gestion des traumas, à la gestion des émotions, libération des traumas. Si je t'explique que le jour où j'ai signé ma démission, j'ai tremblé et j'ai dû me faire un protocole sur moi.
Oui.
Parce que franchement, je me suis dit, c'était comme si je sautais d'une falaise. Comme si tu te disais, je vais sauter d'une falaise, mais sans savoir si j'ai un
parachute. Ouais.
Et comme je sais que la vie est bienveillante, je me suis dit, là, il faut que tu passes ce cap-là.
Quand tu as pris cette décision-là, tu savais que...
Oui. Oui. Ouais. C'est comme si je me suis branchée petit à petit sur mon cheminement, si je me suis branchée sur mes intuitions. Mmh. Et j'ai beaucoup plus accueilli mes intuitions. Parce que quand tu es dans la peur, tu n'es pas dans l'intuition. Quand tu es dans la peur, tu es dans le contrôle. Quand tu commences à lâcher la peur, tu es beaucoup plus en lien avec tes intuitions.
Alors, là, on voit bien, le personnage qui sait que la vie va lui réserver certaines choses. Et puis, il y a l'extérieur. Parce que forcément, chez nous, ou de tonne parole, mais qu'est-ce qu'elle fait, mais elle est bien placée. Alors, qu'est-ce qu'on disait de tout cela ?
Waouh ! Les gens n'ont pas compris. Alors mes amis, ils ont tout compris. Ça c'est bien. Mes enfants, j'ai été énormément soutenue par mes enfants. J'ai jamais eu une en mode mais maman, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Au contraire, on me disait c'est bien, ouais. Vas-y. J'avoue qu'en plus, il y a des métiers où quand tu vieillis, automatiquement, il y a aussi du. Enfin, tu sens que. Bon, ok, il y a d'autres qui viennent derrière et ça pousse. Mmh. Voilà, je ne sais pas si le terme est.
Oui.
Ça pousse.
Oui.
Donc, il faut accepter à un moment donné d'être poussé. Hein. Mes enfants, bienveillants. Les gens, les personnes, mes parents, je leur ai dit un peu tardivement.
Ils ont réagi comment ?
Il n'y a pas eu de très gros étonnement.
Ouais.
Parce que c'est comme si, en fait, avec tout ce qu'on a fait, là, tu quittes ce métier. Ouais. Et puis, j'étais bien. Moi, j'avais un poste, franchement, top. Eh ben oui. Parce que là, je prends mes décisions et je n'attends pas qu'on me valide.
Ah ben, c'est parfait.
Je me valide moi-même.
Il est 19h46. Moi, je te propose, on a beaucoup parlé, surtout toi, mais ça, c'est bien. on commence à comprendre. Là, pour moi, c'est la première partie de ta vie.
Oui.
La deuxième partie de ta vie, là, elle va être encore beaucoup plus intéressante parce que, après avoir mené ta barque, oui. À un moment donné, tu as décidé que je faisais carrément changer de barque.
Oui, complètement.
Et puis faire autre chose. Moi, je te propose de faire une pause pub, une pause musicale. La pause musicale, elle sera faite avec la Perfecta en bon souvenir. Et on se retrouve juste après. Vous êtes sur RBR 103.4, 106.8, ou mieux encore, les 3W RBRFM.com.
Tous les deuxième et quatrième lundis de chaque mois sur RBR, retrouvez votre émission Entre nous de 19h à 21h. Venez partager avec nous l'intimité d'une personnalité avec Jean-Étienne en toute complicité sur les 103.4, 106.8 et au www.rbrfm.com.
Marie-France Soffard est notre invitée, entre nous, jusqu'à 21h. On a vu cette première partie de ta vie, Marie-France,
oui.
Je dirais bien remplie,
oui.
Avec à chaque fois des constats.
À chaque fois.
C'est toujours le même, il y a les tricheurs qui rentrent en jeu. C'est quand même assez récurrent, cette manie que beaucoup d'entre nous veulent profiter justement des autres. Comment toi tu vois ça?
Alors, comment je veux... Alors, attends, profiter...
De profiter des autres, puisque
profiter
là...
Profiter des autres, oui. Ouais. Ben moi, j'ai vraiment toujours eu... Alors, bizarrement, j'ai toujours eu ce naturel des... alors, je vais le dire différemment. Dans mon travail, quand je suis devenue manager, j'ai découvert le relationnel à l'autre.
Oui.
Alors, j'avais le relationnel à mes amis, j'avais le relationnel à mes enfants, mais je pense que ça m'a aussi d'ailleurs éveillée par rapport à ce que je voulais faire, parce que le relationnel à l'autre... il se posait un peu différemment là, dans des discussions, dans comment tu peux amener une équipe à te suivre.
Mm-hmm.
Moi j'avais 15 cadres, j'encadrais des cadres. Donc ça veut dire que ça m'a aussi. C'est venu me challenger sur qui j'étais vraiment. Donc, alors mes enfants m'ont challengé, mes amis m'ont challengé et mes collaborateurs m'ont largement challengé. Parce que j'avais en plus des hypersensibles, beaucoup de HP, ce qui veut dire que. Quand tu leur demandais quelque chose, il fallait leur donner le sens.
Ah ouais. Alors c'est moi, ne pas se contenter simplement de le dire,
oui.
Mais il faut expliquer.
Ah oui, quand tu dis à quelqu'un, fais ça, va là-bas, il va te dire, ben, tu sais quoi, vas-y d'abord.
Oui.
Et puis quand il sera, je viendrai. Donc, il y avait vraiment cette notion de donner envie, être sincère. Parce que la sincérité, sinon c'est dans un management un peu mécanique, qui n'est pas agréable. C'était un management ouvert. Enfin, j'essayais de mettre en place, au fur et à mesure que le travail se faisait sur moi, mettre un management ouvert en place, sincère. D'ailleurs, mais beaucoup de mes collaborateurs sont aujourd'hui des amis.
Et puis voilà, on laisse la banque.
On laisse la banque. On crée sa société.
Oui. Parce que forcément, à partir de là, tu as fait quand même un constat avant. Parce que pour laisser une situation... entre guillemets confortable et créer sa société, forcément tu es parti d'un constat. Le constat c'était lequel?
C'était qu'à un moment donné je ne voulais plus être qu'une ressource, humaine certes, mais ressource surtout,
ouais.
et qu'il était temps pour moi de réaliser quelque chose que j'avais certainement voulu réaliser. C'est comme si j'étais arrivée à un carrefour de ma vie où je me suis dit, ah, ok, tu fais quoi ? Si tu reprends un autre poste, parce qu'on était en train de réorganiser l'entreprise, tu reprends un autre poste, tu vas avoir ton poste, de toute façon, tu y as droit et c'est comme ça, mais est-ce que tu vas être heureuse ? Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi, parce qu'en parallèle de tout ça, j'ai fait un travail important sur moi, j'ai de plus en plus développé ma sensibilité et bizarrement, j'ai une forme de médiumnité qui est arrivée. Je pense que ça va avec.
Ouais.
Sensibilité. Et cette médiumnité m'a quelque part aidé aussi à comprendre que ce qui allait se passer dans l'entreprise allait challenger encore plus les gens qui allaient rester. Donc, j'ai fait le choix de partir. Et en plus, cette forme de médiumnité qui est arrivée à moi assez tôt m'a permis aussi de mettre en place les petits cailloux pour me permettre de me lancer dans ce que je voulais faire. Donc, de façon un petit peu rétroactive, quand j'ai décidé de partir, j'avais déjà mis des choses en place.
Et ces choses-là, c'était quoi ?
C'était, j'avais déjà des formations en lien avec ce que j'aimais faire, parce que moi je m'intéresse à au développement personnel, à la psychologie, à vraiment aux techniques de développement de soi depuis très tôt. Ce qui fait que je me suis formée, mais rapidement. Alors j'avais déjà une formation, mais j'ai fait de l'hypnose, je suis hypnothérapeute. J'ai fait de la théorie polyvagale, je me suis formée à la théorie polyvagale qui est la maîtrise et la connaissance du système nerveux. Comment le système nerveux fait qu'à un moment donné, il va te mettre dans des programmes qui malgré toi va te faire agir et réagir et te mettre dans des situations où tu ne veux pas être. Voilà, donc ça c'est important. J'ai fait également de la programmation neurolinguistique qui est aussi la connaissance du langage, comment quand j'exprime quelque chose, ça parle de moi au travers de mes filtres. Mon histoire, ma vie, ma famille, mon contexte, etc. J'ai fait également, je me suis formée à ce qu'on appelle la DNR, qui est l'équivalent de l'EMDR, le fameux, qui permet en fait de reprogrammer les traumas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on se sert de la mécanique du cerveau pour lui demander de reprogrammer ce qu'il enregistrait. On se sert que c'est que du naturel en fait. Hein. Sous-entendu, il n'y a rien de magique, si ce n'est qu'on en comprenant comment fonctionne le corps, comment fonctionne le cerveau, en associant des techniques, c'est comme ça que je l'ai fait moi, ça m'a permis d'avoir une globalité d'action.
Alors, quand on a mis, je dirais, toutes ces connaissances-là, quand tu les mets bout à bout,
oui.
Alors, aujourd'hui, que proposes-tu justement à ceux avec qui tu travailles ?
Alors, moi, j'ai créé une méthode d'accompagnement. Parce que je me suis rendu compte que moi, pour me libérer un peu de tout ce que j'avais, c'est comme si à un moment donné dans ma vie, je me suis sentie avec des poids aux pieds. Et je n'arrivais pas, je voulais avancer, mais je n'y arrivais pas. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à aller voir un hypnothérapeute. J'ai fait de l'EMDR, donc de la DNR, hein, c'est la même chose. Hein. J'ai fait de la théorie polyvagale. J'ai fait plein de. Je me suis fait accompagner de plein de façons pour. Je savais qu'il fallait que je me déprogramme de quelque chose.
Et sur quelque chose ouais, voilà, parce que ça va peut-être aider à ceux qui nous écoutent. Oui. Sur quelque chose-là que tu as déprogrammé, est-ce qu'on peut tu peux le partager avec nous, qu'on
bien
puisse
sûr,
mieux comprendre
pas de problème,
oui.
Complètement. En fait, je me suis rendu compte depuis très jeune, je porte comme une programmation qui fait que, par rapport à mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, hein, y a pas du tout, les parents font ce qu'ils peuvent. Pour autant, il y a eu des choses que l'on m'a inculquées qui m'ont donné des peurs. Et en fait, il y a eu du transgénérationnel, c'est-à-dire que c'est même pas ma peur à moi que l'on m'a transmise. Donc on m'a sécurisée, il faut savoir que moi j'ai perdu mon frère et mon autre frère a choisi lui de partir aussi, hein, ouais. Pour s'extraire de ce contexte familial. C'est-à-dire que moi je suis restée. Et donc j'ai une chape de plomb qui m'est tombée dessus parce que quand tu restes, c'est comme si on projetait sur le fait que toi, il t'arrivera rien. Mais quand on te dit ça, on te met une chape de plomb. Tu peux plus sortir, tu peux plus vivre ta vie, tu peux même pas expérimenter. Or on sait que pour évoluer, il faut expérimenter. Sauf que il fallait que c'est comme si on me mettait dans une boîte.
Et on te dit reste là.
On te dit reste là et on te dit en plus c'est pour ton bien.
Et sache qu'il y a la vie dehors.
Voilà. Et la vie exactement.
Oui, la vie existe.
C'est ça.
Oui.
Ouais. La vie est dehors et pour ceux qui ont eu des expériences, certainement même dans leur vie difficile, le fait est qu'on peut transmettre le résultat de cette pensée que tout fait peur, que dehors c'est dangereux. Évidemment c'est dangereux dehors, mais pour tout le monde, mais pas que dangereux. Dehors aussi il y a de belles choses à faire. Et une expérience, quand vous faites des expériences dans la vie, on va vous dire c'est un échec. Non, c'est pas un échec, c'est une expérience. Une voie A, une voie B, ben vous allez prendre la voie A et vous vous rendez compte que vous auriez dû prendre la voie B. Ah ben c'est pas grave, vous retournez et vous prenez la voie B. Et c'est ça en fait que l'on m'a à un moment donné enlevé. Donc j'ai dû me déclencher moi-même. J'avais du mal à avancer. Je tremblais, je me souviens, je suis partie aux États-Unis avec mes enfants. J'avais créé le grand voyage, c'est le dernier voyage avec mes fils, en me disant, après ça, de toute façon, ils vont vivre leur vie, ils ne viendront plus avec moi. Donc on est parti à New York.
Ouais.
Je crois que j'ai eu la peur de ma vie. D'ailleurs, à un moment donné, je tremblais. C'est-à-dire que j'étais vraiment en peur. C'est-à-dire que j'ai monté le voyage, j'ai organisé le Airbnb, on a atterri. J'avais tout organisé pour que mes enfants soient heureux, etc. Mais j'étais en mode forcing.
Qu'est-ce qui expliquait justement cette peur? Et c'est une peur de quoi?
Je pense que j'ai intégré, mon système nerveux a intégré des limitations. Et ces limitations, j'avais du mal à les dépasser. Aller aux États-Unis, j'étais pas sortie beaucoup.
Ouais,
on peut imaginer ce que mon système nerveux, je lui ai fait vivre. Mais j'ai dépassé ça parce que je voulais que mes enfants vivent cette expérience. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon fils aîné, quand il a été aux États-Unis, après, il est parti aux États-Unis. Enfin, ça lui a déclenché, lui, l'envie d'aller faire... Ouais. Il a fait des études aux États-Unis, enfin, il a fait plein de choses. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dû sortir de mon corps pour faire... Aujourd'hui, les enfants, ça leur paraît basique de voyager. Eh ben, moi, c'était dépasser une montagne qui me paraissait mais surnaturelle. Donc, et j'ai emmené mes enfants. En plus, je me disais, mais tu vas les emmener, c'est dangereux, on ne sait jamais. Ah oui, non, mais le danger, on l'a dans la tête. Quand on vous l'a bien donné, bien mis, vous l'avez. On peut imaginer, il pourrait leur arriver un truc. En plus, vous projetez des drames qui n'existent pas. Et votre système nerveux, le problème, c'est...
Il enregistre ça.
Oui, oui. Je ne sais pas si c'est... Quand vous pensez à des drames, quand vous pensez à des choses qui n'existent pas, pour votre cerveau, ça existe.
Ouais.
Donc, vous vous retraumatisez tout le temps. Moi, j'avais dans ma tête des drames et je m'inventais des drames.
Sauf que j'imagine que le voyage aux États-Unis, ça s'est bien passé.
Ah, génial.
Ouais.
Super. Moi, j'ai passé un bon moment, j'ai mes enfants aussi. J'avais passé. Ouais.
Et puis, on retourne en France.
Voilà.
Avec quelque chose quand même, je dirais, là, tu as du concret. Alors, quand tu prends de la hauteur, que tu vois ce personnage que tu étais, je te dis, dans la boîte, maintenant
oui.
Cette personne est sortie de la boîte.
Oui.
Comment tu vois justement cette nouvelle personne?
Quand tu commences à faire des expériences qui te permettent de dépasser ce qui te bloquait, donc tes peurs, tu as un champ de liberté qui s'ouvre devant toi, vraiment. En fait, ça t'énergise. Ça te donne la possibilité d'expérimenter des choses là où avant tu ne l'aurais pas fait. Donc, ça te donne un potentiel là où d'autres te disent... là où tu disais tout à l'heure que quand j'ai quitté mon job, j'allais partir vers une aventure. Ça... En fait, c'était la peur des autres que les autres me projetaient. C'était leur propre peur. Et moi, souvent, je leur disais, mais moi, j'ai plus peur, là. Je ne sais pas ce qui va arriver. Il pourrait arriver des choses. Je ne vais peut-être pas réussir, mais peu importe.
Mais on ne va pas anticiper sur...
Exactement. Ouais. Et en fait... Tu te rends compte en fait que beaucoup de choses appartiennent. La peur que l'on te projette, c'est pas la tienne. Donc moi, ça j'ai appris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai moins de peur, voire. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de peur, tu as toujours des petites peurs, mais ce que je veux dire, ça ne me bloque plus. Ça ne me bloque plus dans ce que je suis capable de réaliser, au contraire.
Alors il y a plein de parents qui nous écoutent, il y a aussi des jeunes, des moins jeunes,
oui.
Il y a ceux qui ne sont pas parents, mais s'il y a une chose qui est commune, c'est. Pour certains, il y a ceux qui ont cet esprit d'aventure qui vont toujours plus loin que les autres.
Oui.
Et puis, il y a toujours au fond de nous, je dirais, beaucoup d'entre nous, cette peur qu'on a, soit de laisser ce que l'on fait, alors que peut-être d'une manière intuitive, on sent qu'il faut que l'heure du changement est arrivé, mais qu'on n'ose pas. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à tout ce beau monde?
Je pense que ce qui est intéressant par rapport à ce chemin, vous le sentez au fond de vous, si vous êtes à la bonne place, au bon endroit.
Oui.
En fait, c'est surtout ça.
Il faut qu'il y ait un concours de circonstances.
Oui, mais la vie, elle va le présenter.
Oui, ouais.
Moi, je vois, la vie, elle te présente des rencontres, elle te présente des situations qui vont faire que tu dois te poser la question.
Oui, alors, mais sommes-nous assez intuitifs pour le ressentir?
Non,
oui.
Quand on est dans les peurs, non.
Ouais.
En fait, il y a une phrase qui dit, c'est soit tu es dans l'amour, soit tu es dans la peur. Quand tu es dans la peur, tu n'es pas dans l'amour, donc tu n'es pas dans ce qui peut t'amener à trouver.
On n'est pas réceptif.
On n'est pas réceptif parce que en fait, c'est comme un voile devant les yeux. Et ce voile, il se pose directement pour te bloquer. En fait, il y a une partie de toi qui a envie et tu as une autre partie qui va tout faire pour que tu n'y ailles pas. Parce que ton système nerveux, alors je vais parler un peu, ton système nerveux, ce qui est intéressant pour lui, c'est de pouvoir reproduire ce qu'il connaît déjà.
Oui.
Donc, l'aventure, il ne connaît pas. Et donc, quand tu vas te lancer vers, il y a quelque chose en toi qui va faire clups, qui va te bloquer. Sauf que c'est ce clups qu'il faut aller voir, parce que c'est là où tu vas dépasser tes limites. Et ce que ton cerveau te raconte comme histoire, n'y va pas, parce que c'est dangereux, parce que, alors, dans la mesure du possible, souvent, il n'y a pas de danger. C'est ce que le cerveau nous raconte pour nous maintenir dans ce qu'il connaît.
Ouais.
Et ce qu'il connaît, ton système nerveux, c'est rassurant. Donc, bah, ça nous laisse, ça nous fait tourner comme en rond avec nous, en nous-mêmes. Et on n'a pas plus loin.
Alors, entre le moment où tu sors de la banque, entre le moment où tu te, je vais dire, tu te retrouves avec toi-même et que tu te découvres, donc là, tu montes vraiment ta société avec une méthode qui t'est propre.
Oui.
Et là, aujourd'hui, tu t'occupes aussi des autres.
Oui. Aujourd'hui, je m'occupais déjà des autres un peu parce que quand j'étais manager, j'adorais ça.
Oui, forcément, oui.
Alors, mes collaborateurs venaient des fois. Alors, je vais juste raconter une petite histoire. Mes collaborateurs venaient me voir dans le bureau. Marie-France, je peux te parler? Oui. Ils s'asseyaient. J'ai un problème avec ma femme. Comment je peux faire? Donc, des fois, j'avais des entretiens, non pas boulot, mais des entretiens en lien déjà. Donc, on me mettait déjà sur une voie et j'avoue que j'étais déjà dans cet accompagnement.
Alors, ça, c'est. Tu vas me parler un petit peu. Qu'est-ce qui fait que parfois un ou une inconnue, comme toi tu as fait l'expérience, qu'est-ce qui fait que des gens viennent se confier par exemple à toi, parce que c'est ton cas, et puis en fait chercher une solution à des choses qui sont, je dirais, quand même assez propres, assez intimes?
Oui, je pense que c'est la confiance en fait. C'est en lien avec ce que j'ai dit avant, c'est quand quelqu'un...
Forcément, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il y a des énergies qui bougent, qui permettent...
Ah, complètement, exactement. Il y a une forme de confiance, il y a comme une, comme tu le dis très bien, cette énergie qui se met entre les deux personnes et le système nerveux du coup s'apaise. Et quand il s'apaise, ça veut dire qu'il y a une,
il
y a une communication, une réceptivité. Et quand la personne elle est réceptive, tu peux aller voir des personnes, différents thérapeutes, et ne pas être à l'aise du tout. En fait, c'est une forme d'énergie, l'énergie qui permet à la personne de se dire, ok, c'est cette personne-là. Moi, je pense qu'on s'attire. Moi, je pense que vraiment, on s'attire. Il n'y a pas de hasard. On attire les personnes qui ont besoin d'être accompagnées par toi dans ce métier-là. Et ces personnes-là, quand elles le sentent elles-mêmes.
Alors, on dit souvent... Bon là, je pense qu'avec ton expérience, tu pourrais soit nous éclairer dessus ou pas, que les contraires s'attirent. Si les contraires s'attirent, pourquoi forcément les contraires s'attirent?
Alors ça, c'est mon grand dada, parce que j'accompagne des clients, des clientes. Et en fait, ce que j'ai réussi à transmettre à mes clients, qui ont des histoires de couple, c'est qu'en fait... C'est de désacraliser le fait que l'autre est comme soi. En fait, non. Souvent, d'ailleurs, on a des polarités inversées qui s'attirent. Pourquoi ? Imaginez, moi, je vais être en rencontre avec un homme, une femme, peu importe, en tout cas un homme, et je vais découvrir, moi qui suis plutôt extravertie maintenant, je vais rencontrer quelqu'un et je vais trouver son côté... introverti. Et je vais dire, il m'attire, il a un côté calme, etc. En fait, ce qui m'attire en lui, c'est la partie de ma personnalité que je n'ai pas encore touchée.
Ouais.
Donc, je l'ai en moi, je peux tout à fait faire le travail pour avoir en moi cette qualité-là, sauf que en attendant de le faire, c'est à l'extérieur que je vais aller le chercher. C'est horrible, ça enlève le côté romantique de l'histoire.
comment conseilles-tu? Par exemple, il y a une théorie. Théoriquement, on l'admet bien. Nous sommes tous différents.
Oui.
Ça, c'est sur le plan théorique.
Ah, clairement,
on l'admet.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que dans la pratique, justement, on n'est pas aussi, je dirais, aussi empathique dans le côté pratique du fait que nous soyons tous différents?
Je pense que ce qui se passe dans la pratique, c'est que on peut le conceptualiser, c'est-à-dire qu'on le comprend avec le cerveau, sauf que ça ne descend pas dans le corps.
Ouais.
Pourquoi? Parce que justement, on a nos fameux blocages. c'est que si vous avez été élevé d'une certaine façon ou que votre système nerveux, pour se protéger de certaines situations, a déclenché des programmes, bah les programmes vont se déclencher tout seuls. C'est pour ça que des fois, vous vous retrouvez dans des situations, vous dites, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ça m'a dépassé. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose en vous qui se déclenche automatiquement. C'est un système de protection. Votre système nerveux, il est là pour vous garder en vie et vous protéger. Coûte que coûte.
Il fait son boulot.
Il fait son boulot.
Il a reçu des consignes et il fait son boulot.
Complètement. La problématique, c'est que les consignes, il les a reçues tout petit, quand vous étiez petit. Et votre système nerveux, il peut pas. Des fois, il n'a pas compris que vous avez grandi. Donc, le programme que vous aviez enfant par rapport à une situation, il va le garder. Et vous vous retrouvez à revivre les situations perpétuellement. Jusqu'à ce que vous fassiez un travail de déprogrammation.
Donc, ceci va expliquer aux gens qui disent « Ah oui, moi je ne comprends pas, je refais toujours les mêmes choses. »
Toujours les mêmes.
Il n'y a pas de solution.
Exactement, ouais. C'est toujours pareil. De toute façon, j'en ai marre, c'est pas possible, ça ne sert à rien. Ben si, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est malgré vous. C'est malgré vous que ce système, votre système nerveux a intégré ce qu'il pense être nécessaire en termes d'action pour vous protéger. Pour autant, vous pouvez lui expliquer, ça c'est aussi ma méthode, tout va bien, tu es en sécurité, tu peux lâcher. Laisse-moi faire. Redonne-moi cette capacité que j'avais d'être libre de mes décisions. Sinon, votre système nerveux, s'il a vraiment pris la main pour vous protéger soi-disant, vous ne pourrez pas.
Est-ce que c'est bon, là c'est ton expérience et ton vécu, on va prendre les deux extrêmes, hein,
okay,
parce que tu as dans ta panoplie des gens avec qui ça a fonctionné, parce que bon, ben, ils ont compris tout de suite,
oui.
Puis d'autres avec qui il a fallu mettre peut-être autre chose en place,
oui.
Pour aller défaire justement cette carapace.
Oui. Là, c'est intéressant ce que tu dis là. Oui. C'est marrant parce qu'il y a des personnes qui, quand je fais des exercices de libération, il y a des personnes quand j'essaye de leur dire, voilà, tu as tes émotions, elles sont là. Quand je vais te parler de tes émotions par rapport à l'exercice que l'on fait, dis-moi ce que tu ressens dans ton corps. Il y a des gens qui vont se connecter à leur corps très facilement.
Ouais.
Mais vraiment, hein, j'ai même des personnes qui me décrivent l'émotion, où elle est. Après je la transmute et j'essaye de trouver une représentation, la couleur, la forme, etc. pour après l'enlever. Donc c'est très visuel, c'est très sensitif, ça marche. Et il y a des personnes qui ressentent pas du tout, elles sont dans leur mental. Et ces personnes là ce sont des personnes qui ne croient que ce qu'elles voient.
Mais c'est Thomas, comme on dit chez nous.
Exactement, donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est c'est un travail où je vais être amenée, et ça c'est valable pour les deux personnes, mais il y a une personne en tout cas particulièrement où je vais devoir, avant de commencer à lui faire travailler son corps, parce qu'en fait c'est réanimer son corps, redonner un accès à ses sensations corporelles. Vous vous rendez compte qu'en fonction de ce qu'on vit, on peut totalement se couper de son corps. C'est la tête qui fonctionne. Ah ben pour réfléchir, on réfléchit bien. Sauf que le corps, il est complètement désinvesti.
Moi, ce que je te propose, on va faire une nouvelle pause musicale et après, on va essayer de comprendre, en fonction des émotions, ce que ça peut créer comme traumatisme et puis éventuellement les solutions qui existent.
Très bien.
Quant à nous, il est 20h passé de 16 minutes. C'est vrai que le débat est bien passionnant. L'heure ne nous attend pas. On fait tomber quelques petites piécettes. Après quoi, on fait une pause musicale et on se retrouve juste après.
Tous les 2e et 4e lundis du mois de 19h à 21h, retrouvez votre émission Entre nous avec Jean-Étienne sur RBR. Venez partager en toute complicité l'intimité d'une personnalité sur les 103.4, 106.8 ou sur www.rbrfm.com. RBR.
Notre invité jusqu'à 21h, Marie-France Sofa. On a vu Marie-France tout à l'heure, on a beaucoup parlé, de cette possibilité qu'on a d'aller chercher à l'intérieur les choses qui ne fonctionnent pas ou qui nous bloquent, mais faut-il déjà les identifier? Alors, on va essayer de voir que peut produire, par exemple, la colère sur notre ressenti et sur notre corps. Si on commençait par justement ces effets.
Alors la colère, c'est une émotion souvent qui est utilisée en lien avec quelque chose que l'on ne veut pas. Et ça, c'est pour le coup, c'est normal. Après, tout dépend de la façon dont on positionne son refus. Ce que l'on ne veut pas du moment que c'est quelque chose qui vous atteint et qui vient empiéter sur vos zones de votre être, vos zones de confort, c'est normal de positionner un non. Après, vous avez également la colère qui va venir si vous voulez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir.
Ça, et là, c'est deux formes de colère différentes.
Ah oui, complètement, ouais. Ça n'a rien à voir. Et il y a même une troisième forme qui va être la colère contre soi,
ouais.
dont on parlera. Mais quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, vous pouvez le transformer en colère. Là, c'est simplement une notion de se dire « je veux quelque chose, je n'arrive pas à l'avoir, donc je suis frustrée ». Et cette frustration, elle est effectivement nocive, parce que, in fine, quand vous voulez quelque chose que vous n'aurez pas, c'est peut-être que c'est pas pour vous, c'est peut-être qu'il est normal que vous l'ayez pas, parce que vous allez prendre le contrôle de quelqu'un.
Et pour ceux qui refusent, justement, de le comprendre.
C'est ça.
Des fois, on veut.
Mais oui.
Ouais.
Mais à un moment donné, on peut lâcher prise. Moi, je dis toujours à mes clients, il y a ce qui dépend de vous, de ce qui dépend des autres. Quand vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose et que la personne ne veut pas le faire, à un moment donné, il faut savoir lâcher. Il faut avoir ce recul de dire « Ok, c'est à moi d'aller chercher en moi la ressource pour accepter plutôt que de contraindre quelque chose. » Et c'est là où vous sortez de la manipulation, de ce genre aussi de comportement. Et c'est des fois des comportements qui sont inconscients. Parce que quand on maîtrise l'autre, ça permet à notre système nerveux d'être confortable.
Ah ouais.
Ah bah oui, mais là le travail il est détourné parce que logiquement c'est vous qui devez faire le travail sur vous. C'est pas utiliser les autres pour que quand ils ne bougent pas ou quand ils font ce que vous voulez, vous vous sentez bien.
Ouais.
Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ce travail, cette colère, elle a plusieurs facettes. Et la troisième facette de la colère, pour moi, c'est cette colère qu'on peut avoir contre soi. Alors quand c'est léger, ça va. Parce que moi, ça me permet d'évoluer. Par exemple, Marie-France, t'as fait ça, mais t'aurais jamais dû faire ça. La prochaine fois, tu feras différemment. C'est léger, c'est pas méchant. Mais quand ça devient une colère contre soi très importante, là, ça peut devenir très problématique parce que ça s'appelle la culpabilité. Et la culpabilité, ça peut vous rendre malade, ça peut vous emmener en dépression. C'est comme, en plus, vous ressassez les choses et c'est absolument pas bon pour la santé et la culpabilité ne sert à rien. Parce que ce qui est fait, quoi qu'il se soit passé. Moi, je dis toujours à mes clients, il y a trois temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Personnellement, le passé, je peux rien faire.
On ne peut pas agir dessus.
Voilà, donc à quoi ça sert de ressasser, parce que vous ne pouvez pas changer les choses. Il faut accepter. Le futur, ce n'est pas encore arrivé. Donc ça ne sert à rien d'avoir des projections permanentes. Parce que ça crée de l'angoisse. Et on le maîtrise pas.
Ouais.
Et souvent, la vie, elle va vous faire déchanter parce qu'elle va faire exactement ce que vous ne voulez pas. Il n'y a qu'un temps qui est intéressant, c'est le moment présent.
Il y a aussi une autre émotion qui est la tristesse.
Oui.
Ouais.
La tristesse, pareil, c'est une émotion qui, normalement, suit la colère. Dans une courbe de deuil, vous avez la colère et puis après, vous avez à un moment donné la tristesse. Pourquoi ? Parce que la colère, c'est une... C'est la notion de vouloir avoir une emprise sur quelque chose. Et la tristesse, c'est justement quand vous lâchez prise. Vous n'avez pas de prise sur ce qui est en train de s'arriver. D'arriver. On va parler du deuil, par exemple. Quelqu'un qui meurt, ok, qui décède. C'est triste, c'est dramatique. D'autant plus que moi, j'ai perdu ma mère cet été, vous voyez. Si à un moment donné, vous êtes dans la colère... C'est comme si vous vouliez résister à quelque chose qui s'est passé. Ça ne sert à rien. Et la courbe du deuil va vous amener à un moment donné à passer par cette étape de colère. Et très vite, vous allez arriver sur la tristesse, parce que la tristesse, c'est la suite de la colère quand à un moment donné, vous lâchez prise. C'est quand il y a une forme d'acceptation que ça n'est pas entre vos mains. Mais pour plein de situations, situations de vie, de séparation, on passe par la colère et très vite, il faut arriver sur la tristesse. Et la vie va vous amener vers la tristesse.
Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui agissent aussi négativement quand elles ne sont pas maîtrisées justement sur le corps ? Oui, il y a la peur.
La peur. La peur, c'est une émotion qui est terrible parce qu'elle va générer beaucoup de cortisol, beaucoup d'adrénaline et en plus, elle va vous figer. C'est-à-dire que, alors, elle va vous figer, pas forcément. Ça dépend du système de défense. C'est-à-dire qu'elle peut vous rendre agressif. Elle peut vous mettre en avant et faire que vous allez, pour ne plus avoir peur, agresser. Alors, vous pouvez aussi fuir, c'est-à-dire que face à des situations, systématiquement, vous allez prendre peur, vous êtes tout le temps fuyant. Donc en fait, vous n'allez jamais au bout des choses, vous n'avancez jamais, parce que tout vous fait peur. Et quand ça vous fait peur, vous n'avancez pas. Donc vous pouvez vous retrouver effectivement, si votre système a compris que la peur vous bloquait, pour ne plus vous donner, faire peur, enfin pour que vous ne ressentiez plus la peur, il va vous lisser tout ce que vous vivez. Donc vous allez vous retrouver à ne plus agir. Effectivement, quand on n'agit pas, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Mais en fait, vous ne vivez plus.
J'ai dit tout à l'heure qu'avec toi, le mot renaissance pouvait trouver, je dirais, toute sa raison d'être. Selon toi, comment toi, tu pourrais l'interpréter ?
Waouh ! Ben, il y avait Marie-France d'avant, oui, et Marie-France d'après. Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé ma société Renaissance. Et j'ai, parce que pour moi, c'est vraiment quand j'ai pu comprendre les mécaniques que j'ai eues avant, qui m'ont transgénérationnelles, les peurs de mes parents, les peurs que j'ai eues aussi, puisque mes traumas que j'ai eus aussi dans ma vie, quand j'ai pu comprendre comment me délester de ça, eh ben pour moi, c'était une vraie renaissance. C'est comme si j'étais née une première fois, et puis je suis née une deuxième fois. Donc j'appelais ma société Renaissance.
On va parler des choses, et aussi étonnantes que ça puisse paraître, qui ont été démontrées scientifiquement dans la transmission, je dirais, oui, des traumatismes, oui, de génération en génération. Des fois, on ne comprend pas c'est dans cette vie ce qui nous arrive, et on pourrait penser que c'est que ce soit dans la tête.
Dans la malchance.
Il y a ça aussi. Comment on est arrivé à prouver scientifiquement que des traumatismes pouvaient, je dirais, se transmettre de génération en génération? Alors, il faudrait bien à un moment donné que ça s'arrête, oui.
Complètement. En fait, tu as des scientifiques qui ont quand même été regarder la notion de trauma, et ils ont analysé sur 3 générations, par grands-parents, parents, enfants, et la dernière génération qui est le petit enfant. Ils ont été retrouver des marqueurs d'un trauma. Par exemple, le grand-parent, il a vécu un trouble spécifique. Et ils vont regarder sur les générations d'après si on retrouve dans les marqueurs ADN, enfin dans l'ADN, ces marqueurs-là. Ils ont retrouvé dans l'ADN, sur 3 générations, ils ont retrouvé ce marqueur de trauma.
Ouais.
Sous-entendu, le trauma a bien été transmis de génération en génération. Et vous pouvez même retrouver un petit enfant qui porte une problématique traumatique alors que lui-même n'a pas vécu le trauma.
Comment se débarrasser justement de ces choses-là ?
Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps de se faire accompagner. Puisqu'il est possible, par des techniques modernes neuro, celles que j'ai moi compilées dans mon accompagnement, de pouvoir libérer le corps de ça. Parce que les traumas sont dans le corps. Les émotions sont dans le corps. Elles ne sont pas dans la tête, elles sont dans le corps. La tête, elle raconte des histoires, toujours. Pour autant, les traumas sont vraiment dans le corps. Donc on peut libérer par des techniques, et notamment des méthodes, et celles que j'utilise, des traumas dans le corps. On peut s'alléger, on peut arrêter de porter ses poids sur des générations. Ce que n'ont pas pu faire nos parents, nous on peut le faire pour nos enfants.
Tu as aussi démontré le fait que, c'est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle de ça, mais justement des traumatismes créés par l'esclavage, oui, qu'on retrouve aussi chez certaines personnes. Comment fait-on le lien et qu'est-ce qui fait que dans la société d'aujourd'hui, on retrouve trace de ces traumatismes passés ?
C'est clair.
Dans le comportement peut-être ?
Oui, dans le comportement. Même dans les mots, on le retrouve. Tu sais, les expressions, on les entend. Les expressions, tu as des expressions qui sont issues de l'esclavage. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont fait leur chemin. Moi, je pense que comment peut-on imaginer que des 76 ans en arrière, c'est pas si vieux, nos grands-parents, arrière-grands-parents, étaient esclaves. Ils ont souffert, ils ont été maltraités, c'était même le but de l'esclavage, puisqu'il fallait qu'ils soient dociles, qu'ils puissent répondre à la demande de ce qui était exigé. Et pour ça, il y avait une coercition physique ou mentale. On les battait, on les contraignait, ils ne pouvaient ni s'échapper, ni attaquer. Donc ils ne pouvaient que se figer. Et le figement, c'est rendre immobiles les gens par rapport à toute action. Puisque le système nerveux est complètement tétanisé. Moi, je pense qu'effectivement, ce côté tétanisé, on le retrouve aujourd'hui. Beaucoup de gens me disent « je me sens bloqué ». Ça vient d'où ? Je suis persuadée que ce côté le fait d'être tétanisé a été transmis, mais c'est inconscient, hein. On dit pas je vais te transmettre mon
oui.
Le fait d'être tétanisé, c'est simplement dans mes actions, puisque moi je vais me limiter dans mes actions. Donc on va dire que après l'esclave, quand ils ont été libérés, ben les générations d'après ont quand même reçu un héritage. Et cet héritage-là, ils l'ont reçu dans leur ADN, dans leur corps. Et quand on voit des personnes qui ne peuvent pas agir parce qu'elles se sentent bloquées, moi j'ai des personnes qui m'ont dit, je comprends même pas, parce que j'ai des clientes aussi, hein, évidemment, qui me disent, je comprends pas, je n'arrive pas à agir, il y a comme quelque chose qui me bloque. Comment se fait-il que j'ai beaucoup d'antillais qui me disent ça?
Il y a une volonté de faire, mais on ne peut pas passer à l'action, parce que
parce que c'est le figement, ce fameux figement qui était imposé par ce contexte qui était quand même dramatique. Ce que je disais, hein, un esclave, il a le droit d'attaquer la personne qui le contraignait, non. Enfin, il le faisait une fois, mais pas deux. Est-ce qu'il pouvait fuir? Il fuyait, mais il a peur au ventre. Hein. Donc, de toutes les façons, et s'il était rattrapé, il était sanctionné, avec des violences qui étaient extrêmes quand même. Hein. Pour ceux qui connaissent l'histoire, les violences, elles n'étaient pas douces. Hein. Et du coup, quand il se retrouvait dans une situation où il était en colère, et il ne voulait pas ce qu'on lui imposait, mais il était obligé de s'y résoudre, automatiquement, son système nerveux le figeait. Et le figement, c'est quand même une situation qui fait qu'on ne bouge pas. On ne se met pas en mouvement. On ne crée pas ses projets. Le figement est la position du système nerveux où ce dernier, c'est comme si archaïquement, il vous préparait à la mort. C'est ça, hein, l'image du figement. C'est votre système nerveux vous prépare à mourir, donc il va vous générer des hormones pour que vous ne sentiez pas la douleur. Donc vous avez des personnes qui restent bloquées et immobiles et ne savent pas pourquoi.
En début d'émission, je disais que tu allais peut-être nous réconforter ou dédramatiser, je dirais, un certain nombre d'expressions. Par exemple, la programmation neurolinguistique, comment doit-on le comprendre?
La programmation neurolinguistique, c'est... Alors moi, quand j'ai des clients dans mes... Alors j'ai deux cabinets, plus j'accompagne dans le monde, hein, parce que moi j'ai des clients partout. La programmation neurolinguistique, c'est quand mon client me parle, j'arrive à décrypter par sa façon de parler où sont ses blocages, ses croyances. Quelqu'un qui vous dit « je n'ai jamais de chance »,« je n'aurai jamais de chance », le « jamais », ou « c'est toujours pareil », le « toujours ». Et quand je décrypte avec lui, dans sa façon de parler, qu'est-ce qu'il porte comme... dans son sac, comme s'il avait un sac à dos avec des pierres historiques, historiques de son histoire, mais quelque part, il n'a jamais rechallengé ce qu'il y a dans son sac. Va regarder, est-ce que ça te convient? Quelqu'un qui est dans le toujours, le personne, enfin des mots un peu utilisés, génériques, mais qui prouvent qu'il y a une programmation qui fait que le client, il a des limites, il s'est limité. Et c'est ça que je fais sauter. Au travers de protocoles, d'échanges, un mélange d'échanges. C'est du coaching, hein. Et je fais des fois du coaching d'impact. Ça veut dire que mon client, je vais l'amener dans ses retranchements. C'est doux, mais ça le fait bouger. Et à côté de ça, je travaille aussi sur le corps pour enlever les traumas concrètement.
Bon, tu connais, c'est pas quelque chose de spécifique, je dirais, à l'Antillais, aux Antillais que nous sommes. Non. C'est quelque chose de spécifique, je dirais, au monde. Notre manière, parfois, de démarrer au carreau de tour quand on nous dit quelque chose.
Oui.
On l'arrive au fond, on fait mon pim-pim, on va dire, ok. Qu'entends-tu par communication non violente et en quoi ça peut nous aider dans la vie de tous les jours?
La communication, quand je travaille avec les clients et je débloque les situations qu'ils ont en eux, qui font qu'ils ne peuvent pas avancer, il y a quelque chose, et notamment je le retrouve dans les couples, à réguler. C'est comment tu peux parler à l'autre qui est d'ailleurs différent de toi. Si tu crois et que si tu projettes sur lui le fait qu'il est comme toi, ça n'est pas vrai. Et moi, j'ai même des clients où j'ai réussi à les convaincre, et du moins, ils l'ont vu, parce qu'après, en rentrant à la maison, ils font les tests, que la personne en face d'eux est inversée. Ce qui veut dire que la communication non violente te permet de pouvoir parler à l'autre sans l'enfermer dans ses blocages. Il y a des personnes, c'est comme des... Tu sais, tu vas... Comme une huître, tu vas le toucher et paf, il va se refermer. Mais s'il se referme, c'est qu'il se sent en danger. Donc, il y a une façon d'apporter les mots, d'entrer dans un échange en douceur pour que l'autre reste ouvert. Et là, il y a de la vraie communication.
Alors, peut-être as-tu entendu ça souvent, et vice-versa. Moi, j'aime bien le « il » ou le « elle », mais là, je parle d'une manière générale. Il ne me comprend pas,
oui.
Elle ne me comprend pas,
oui.
J'ai beau lui répéter ça,
oui.
mais ça ne fonctionne pas.
Non.
Ou bien des fois, il va faire ça pour me faire plaisir, mais chasse le naturel et revient au galop.
Oui.
Comment trouver, surtout, dans, pas seulement dans le couple, mais d'une manière générale dans la vie, ce juste équilibre entre une théorie qui admet facilement que nous sommes différents, mais une pratique qui ne veut pas justement comprendre cette différence.
Alors, pourquoi ? Parce que je pense que on fait les choses un peu, et c'est normal, un peu à moitié. Quand tu apprends à te connaître, alors la base une, pour être bien dans un échange, bien avec quelqu'un d'autre, il faut déjà être bien avec soi. Et je crois que si...
Ça, c'est le premier travail à faire.
Oui. Ouais. Et ça, c'est démontré.
Ouais.
Quand on n'est pas bien avec soi, on va projeter sur l'autre son mal-être. L'autre n'y est pour rien. Il faut faire le travail sur soi, ce qui fait que ça vous aligne. Et après, vous pouvez être dans une communication, mais qui est ajustée pour vous. Et vous pouvez tout à fait communiquer avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous.
Mmh.
Et mais vous l'acceptez puisque vous êtes bien en vous-même. Il n'y a plus de stress. L'autre ne met pas en danger qui vous êtes. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est souvent on se sent en danger quand l'autre vient nous dire le contraire de ce qu'on voudrait entendre. Et simplement, quand vous comprenez que quand vous êtes aligné, vous allez bien en vous. Vous êtes trouvé, en fait, certainement par un accompagnement, comment vous stabiliser émotionnellement, ben vous n'avez plus du tout de peur extérieure. Et vous ne projetez plus sur l'autre vos peurs, vos propres peurs. Donc, je pense que pour rendre les choses concrètes, c'est de faire un travail sur soi, clairement.
Donc là, on parle de relations, par exemple, entre adultes. On connaît très bien la relation des parents vers enfants,
oui.
Où il y en a beaucoup qui savent, qui te disent, ok, bon, j'ai dit de faire ça, tu le fais, terminé, point.
Ouais, dur.
Et souvent...
ça, c'est dur.
ça, je suppose que ça, c'est assez conflictuel.
Oui.
Dans tes clients et clients, tu dois avoir certainement cette relation famille-enfant.
Oui.
Ça fait du bien à papa et à maman, ça peut faire... Comment on arrive, par exemple, à faire... Bon, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui a été, je dirais, éduqué à la dure, qui veut transmettre ce côté-là, parce que bon, il estime que ça lui a fait du bien, ça peut faire du bien à l'enfant, mais tu sais, sans porter, je dirais, d'amélioration, ça peut créer des conflits avec les parents. Tu es quand même bien placé pour le savoir.
Je suis concernée pour
oui.
le savoir, oui.
Comment peut-on orienter les parents vers justement plus d'harmonie? Il faut retrouver quand même une harmonie pour que la famille ne s'éclate pas.
Complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que les parents veulent bien faire et
oui.
ils estiment effectivement que c'était... Parce qu'ils veulent faire pour le bien de l'enfant. Mmh. Simplement, il ne faut pas oublier que certains enfants, et même on a quand même une majorité maintenant dans les nouvelles générations, d'hypersensibles, d'enfants sensibles.
Mmh.
Donc ça veut dire que automatiquement, ces enfants-là, le fait de leur dire « tu vas faire comme je te le dis », en fait, ce qu'ils veulent, c'est du sens. On ne peut plus leur dire ça. C'est essayer.
Ne fais pas ça.
Voilà.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ?
Oui.
L'enfant, il faut lui donner du sens. Lui expliquer pourquoi je te dis de le faire, pourquoi je te propose de ne pas le faire. Si l'enfant n'a pas le sens, il doit exécuter. Et il se retrouve dans une position un peu comme celle que je viens d'expliquer tout à l'heure au niveau de l'esclavage. Hein. C'est tu n'as pas le choix. Donc, son système nerveux va se bloquer, va créer une protection qui va peut-être le rendre... on va dire, le mettre dans le mutisme. Du coup, les enfants ne parlent plus. Les enfants ne sont plus ouverts. Ils ne discutent plus. On les voit plus s'ouvrir comme des fleurs qui s'ouvrent, quoi. Parce que justement, ils se renferment. Donc, je pense que le parent, ce qui est important, c'est déjà d'écouter son enfant. L'enfant, quand il agit, un enfant qui est tout petit, il y a un exemple, un enfant qui est tout petit, il veut quelque chose. Il y a un âge où le système nerveux n'est pas mature. Avant 5 ans, le système nerveux n'est pas mature. Ce qui veut dire que cet enfant-là, souvent, il va crier, il va pleurer. Et en plus, il est hypersensible.
Il
veut se faire comprendre, mais il n'a pas les mots.
Ouais.
Donc, ça peut énerver. Mais arrête, mais tu pleures tout le temps, mais qu'est-ce que... Arrête. Ben, en fait, ce qui est important, c'est d'aller comprendre ce que veut l'enfant. Pourquoi il pleure. Il ne peut pas utiliser les mots. Et si on ne le fait pas, ça, on va commencer à obliger son système nerveux à en déduire que je ne peux pas être entendu, je n'ai pas le droit d'être moi-même, donc il va créer un faux self. Il va créer un personnage. un personnage qui va être complètement déconnecté de qui il est lui-même, ce qui est dommage.
Voilà, et on est rattrapé par le temps, il est 21h45, on va attaquer la dernière ligne droite avant la fin de notre émission. Je vous l'avais promis, la version vraiment chantée de Rosa avec Eric Vegal. On fait une pause et on revient avec Marie-France pour la conclusion.
Tous les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois de 19h à 21h, retrouvez votre émission Entre nous avec Jean-Étienne sur RBR. Venez partager en toute complicité l'intimité d'une personnalité sur les 103.4, 106.8 ou sur www.rbrfm.com. Entre nous, votre rendez-vous bimensuel pour des discussions intimes et captivantes.
On a beaucoup parlé, on a essayé de comprendre, je dirais, les mécanismes, parfois qui créent les traumas et voir que, ben, on peut faire aussi des choses. Pour ça, tu n'as pas hésité à créer ta propre société.
Oui.
Tout ton cheminement t'a emmené vers ceci. Donc, concrètement, tu as deux cabinets sur l'Hexagone.
Oui.
Mais où tu travailles aussi en distanciel.
Oui.
Donc, concrètement, comment ça fonctionne?
Alors concrètement, ben, je travaille à distance en Zoom,
oui.
Donc un lien Zoom. Il faut savoir que mes techniques de libération, elles marchent autant en présentiel qu'à distance. J'ai autant de déblocages et de réussites parce que c'est un accompagnement. Mon client me confie et nous on chemine ensemble pour le libérer en fonction de ses objectifs. Hein, il me donne des objectifs parce qu'il ressent les choses ou je l'accompagne à les déterminer. Donc ça fonctionne de la même façon. On a des exercices légers mais réguliers, beaucoup d'observations de soi puisqu'on se met en métaposition systématiquement et moi je l'accompagne à mieux se comprendre parce qu'en fait on sort des traumas concrètement quand on les enlève mais aussi quand on se comprend mieux.
Oui.
Quand on va rechallenger le sac qu'on a sur le dos, on le pose au sol et on commence à regarder ce qu'il y a dedans.
Alors pour ceux qui sont du côté de l'Hexagone, tu as un cabinet à Paris, dans le 16e, c'est
alors,
bien ça
qu'il, alors, je l'ai bougé. Il est maintenant dans le 11e, rue Godefroy-Cavaignac, au 1 rue Godefroy-Cavaignac, dans le 11e. Je l'ai bougé.
Et tu as un autre cabinet
au 12 square du Pont de Sèvres, à Boulogne-Billancourt.
Et puis, ceux qui nous écoutent et qui ont envie de prendre contact avec toi, comment ils doivent faire?
Tout à fait. Ils peuvent soit me laisser un message au 07 49 94 33 21, soit m'envoyer un mail à marie-france-renaissance-sofar.com.
Et puis aller sur le site internet, cela va de soi.
Aller sur le www.renaissance-sofar.com.
Alors, si tu es avec nous à RBR, parce que c'est vraiment du direct, donc tu es pour quelque temps encore ici, chez nous.
Je suis jusqu'au 15,
oui.
Parce que là, je viens de faire donc une conférence sur le sujet.
Qui était magnifique.
Je te remercie d'avoir été présent.
Oui.
J'ai trouvé ça. On a vraiment vécu un beau moment. Et donc, il faut savoir que cette conférence, je l'avais déjà faite en métropole. Et donc, je vais venir régulièrement parce que ma méthode en fait, d'accompagnement, je l'ai créée pour les Antillais à la base. Mes compatriotes.
Pendant ton séjour, est-ce qu'on pourrait entrer en contact avec toi?
Bien
c'est
sûr.
C'est possible, oui.
Tout à fait. Il y a ce numéro de téléphone 07 49 94 33 21. Vous pouvez laisser un message et je me prendrai la peine de vous rappeler.
Si ma mémoire est bonne, le 8 mars était la journée dédiée aux droits des femmes.
Ouais.
Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'inégalités. On n'est pas sorti de l'auberge.
Non.
Le combat va être difficile. Deux petits mots sur l'état actuel.
Alors, moi, je pense que ça bouge. Ça bouge. Alors, c'est vrai qu'il faut une journée pour parler des droits de la femme. Bon, ça, c'est un peu navrant parce qu'in fine,
mais
les droits devraient être absolus.
Oui, la lutte est permanente.
Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est plus dans une notion de soyons équitables, soyons ensemble, hommes et femmes. De façon, en fait, je pense que c'est un peu, tu sais, le
c'est
symbole
le yin et le yang.
Exactement. Ouais. C'est le symbole du yin et le yang et du yin et yang pour que les deux puissent vraiment s'entrelacer. Si on regarde le symbole Tao, hein, c'est ça. Pour que les deux puissent s'enlacer, il faut que les deux puissent se connaître et se respecter. On est complémentaires. Donc les deux vont bien ensemble. La femme comme l'homme. Donc c'est les droits de la femme, oui, c'est les droits de l'homme aussi et ensemble. Je pense que les confrontations, il faut les atténuer de façon à ce qu'on puisse vraiment vivre ensemble.
Marie-France, merci d'avoir été.
Merci à toi.
Merci d'avoir partagé ton chemin de vie.
Oui, avec plaisir.
On le souhaite et on l'espère, un chemin de vie encore, je dirais, bien long.
Bah écoute, le plus long possible.
nous faire part encore de ton expérience. Et on souhaite aussi te revoir à ton prochain passage.
Avec ça, on peut déjà prendre date, si tu veux, voilà. Et avec grand plaisir.
Donc, et puis rappeler juste avant le numéro de téléphone qu'il faut pour te joindre.
07 49 94 33 21.
Quant à moi, je vous retrouve dès demain avec Francis pour Parole avec Musique. Merci d'avoir été des nôtres, qui que vous soyez ou que vous soyez, ou mieux encore sous les 103.4, les 106.8 ou sur le net. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.